travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Oui, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont immenses. En plus de l'exploitation, des bas salaires et des mille difficultés quotidiennes, nous devons faire face à la guerre, à la crise climatique et à une société qui s'enfonce dans le nationalisme, le racisme, l'inhumanité et la barbarie. Ces fléaux, aussi divers soient-ils, sont tous liés au capitalisme, aux rapports de domination, aux inégalités qu'ils créent à l'échelle du monde, à l'accumulation du capital et du pouvoir à un pôle de la société, au marché et à la concurrence, c'est-à-dire à la guerre économique de tous contre tous et aux ravages qu'elle fait tant sur les hommes que sur la nature. Alors, loin de nous décourager, cette évolution nous conforte dans nos perspectives communistes, révolutionnaires et internationalistes et dans notre volonté de construire un parti qui les incarne. À l'inverse des politiciens de gauche, de droite et d'extrême droite qui rivalisent pour gouverner tout en respectant cette organisation sociale complètement folle, nous pensons que la seule issue est d'enlever le pouvoir des mains de la classe capitaliste, c'est-à-dire de l'exproprier. La classe capitaliste, la grande bourgeoisie, les actionnaires multimilliardaires, a accaparé les immenses possibilités que l'humanité a développées. Elle concentre entre ses mains des connaissances, des moyens de communication et de production que l'humanité n'a jamais connus. Ces moyens permettraient de nourrir toute l'humanité et d'organiser l'économie à l'échelle mondiale pour qu'elle offre une vie digne à tous et préserve la planète. Et la bourgeoisie gâche toutes ses possibilités. Son unique but est d'accumuler toujours plus de profits en produisant tout et n'importe quoi et de plus en plus souvent sans rien produire, juste en spéculant. C'est un immense gâchis. Les lois du marché, de la rentabilité et de la concurrence entraînent tantôt une sous-production et des pénuries, tantôt une surproduction. C'est un fonctionnement aveugle et absurde d'un point de vue collectif qui nous conduit fatalement aux crises et, comme on le voit aujourd'hui, aux guerres, c'est-à-dire à une destruction inouïe de richesses, de moyens de production, de compétences, d'expériences et d'intelligence collective. Aujourd'hui, quand certains mettent toutes leurs connaissances, leur inventivité et leur énergie à faire reculer le cancer ou à permettre à des tétraplégiques de remarcher, d'autres les consacrent à mettre au point des armes capables de tuer à tous les coups. Cela dit tout de l'aberration, de la stupidité, du gâchis de la société capitaliste. Alors non, une telle société ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'évolution guerrière du monde s'est accélérée. Tous les pays se réarment à marche forcée. En France, l'armée recrute à tour de bras. Le président de la République et le ministre des armées sillonnent le pays, l'un pour inaugurer une usine de poudre, l'autre pour accélérer la fabrication de munitions. Et tous de se féliciter de la réindustrialisation de la France et des créations d'emplois qui en découlent. Pour reprendre ce mot qu'on nous sert à toutes les sauces, le capitalisme fait sa transition vers une économie de guerre. Nous continuerons donc de manquer de médecins, de lits d'hôpitaux et d'enseignants, mais nous aurons des missiles, des chars et des avions de combat à profusion. Sans compter que demain, les dirigeants nous demanderont peut-être de payer cette guerre avec notre peau sur les champs de bataille. C'est pour cela que Macron appelle au réarmement idéologique de la nation et particulièrement de la jeunesse. L'éducation civique et le service national universel sont chargés du bourrage de crâne. Tout cela en plus de notre petite piqûre de patriotisme quotidienne que nous injectent les médias en plus de notre petite leçon de morale quotidienne sur le courage et la lâcheté, en plus de notre leçon politique sur le fait que pour préserver la paix, il faut se préparer à faire la guerre. L'essentiel des travaux pratiques se déroule en Ukraine, égare à celui qui ne soutient pas l'envoi d'armes à Zelensky. Gare à celui qui ne fait pas de Poutine le nouvel Hitler, car, nous disent-ils, il faut soutenir les Ukrainiens. C'est un mensonge. Non seulement les pays impérialistes occidentaux n'aident pas les Ukrainiens en leur disant « allez vous faire trouer la peau », mais c'est leur politique qui les a poussés vers l'enfer de cette guerre. Parce que le bras de fer entre la Russie et les puissances impérialistes n'a pas démarré en février 2022 quand Poutine a envahi l'Ukraine. Hérité de la guerre froide, ce bras de fer a repris de plus belle depuis 1991, quand les pays occidentaux ont profité de l'effondrement de l'Union soviétique pour repartir à l'assaut de l'Europe de l'Est, pour l'arracher de la sphère d'influence russe, pour y gagner des marchés, y compris exploiter la main-d'œuvre et les fameuses terres noires convoitées par tous les capitalistes et les financiers de l'agriculture. Les puissances impérialistes ont accompagné cette percée d'une pression politique et militaire de plus en plus forte. Intégration des pays d'Europe de l'Est à l'OTAN, installation de bases secrètes de la CIA à la frontière russe, entraînement de l'armée ukrainienne par les Américains, livraison d'armes. C'est pour répondre à ces grandes manœuvres que Poutine a envahi l'Ukraine. Et des manœuvres semblables pour contrôler telle ou telle matière première, tel ou tel marché, se déroulent en permanence aux quatre coins du monde et toutes peuvent déboucher sur des déflagrations armées. Une chose est certaine, l'impérialisme en crise se montre de plus en plus belliqueux et les États-Unis se préparent ouvertement à une guerre avec le géant qu'est la Chine, c'est-à-dire à une troisième guerre mondiale, si tant est que nous n'y sommes pas déjà entrés. Tout cela parce que la guerre est la continuation armée de la guerre économique au cœur même du capitalisme. Exactement comme le capitalisme ne peut pas vivre sans crise, il ne peut pas vivre sans guerre. Alors il ne suffit pas d'appeler à des cessez-le-feu et demander aux fauteurs de guerre de se mettre autour d'une table pour faire la paix. Si on veut la paix à l'échelle du monde, eh bien il faut en finir avec le capitalisme. Cette évolution guerrière est une catastrophe, sauf pour les capitalistes qui tireront toujours leur épingle du jeu. D'ailleurs, certains en profitent déjà. En Ukraine, c'est le monde ouvrier et paysan qui compte ses blessés et ses morts. Les oligarques, qu'ils soient ukrainiens ou russes, continuent de s'enrichir. Et pour les puissances impérialistes occidentales, c'est une sacrée aubaine. La guerre offre mille et une occasions pour acheter des bouts de l'économie ukrainienne. Le marché de la reconstruction de l'Ukraine est estimé à 500 milliards d'euros. C'est, paraît-il, le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il fait saliver tous les groupes occidentaux. La France a envoyé un émissaire spécial chargé de repérer les bonnes affaires. Il défendra sans doute la candidature de Xavier Niel, propriétaire de Free, qui lorgne sur le troisième opérateur téléphonique ukrainien. Et cet émissaire spécial compte déjà une victoire à son actif, puisque la France vient de remporter le marché de la fibre très haut débit que convoitaient les États-Unis. C'est 10 milliards d'euros de commandes garanties sur 15 ans pour un consortium réunissant 200 entreprises spécialisées dans les infrastructures numériques. Comme l'expliquent les commerciaux de Nestlé, Bonduel ou Bayer. Je cite, « Il faut s'engager avant que se taise le dernier canon, car une fois la paix signée, ce sera la foire d'empoigne. » Eh bien voilà, Les milliards d'aides militaires à l'Ukraine sont aussi pour les capitalistes occidentaux un très bon placement qui rapportera gros demain à leurs multinationales, sans oublier bien sûr le flot de milliards actuellement déversés sur les marchands d'armes, les Dassault, Safran, Thales et autres Nexter. Alors clairement, s'ils veulent nous embrigader, ce sera pour que l'on meure pour leur profit. Alors, pas un sou de plus pour les marchands de canons, pas un homme pour la guerre des capitalistes. Pour justifier leur guerre et nous enrôler derrière eux, les dirigeants des grandes puissances n'ont que le droit international à la bouche. La liberté, le droit des peuples. Quel cynisme! Comme si ces valeurs avaient été un jour leurs préoccupations. Regardez comment ces grandes puissances agissent vis-à-vis des Palestiniens. Cela fait 75 ans qu'elles ont décidé d'utiliser l'État israélien pour asseoir leur influence dans cette région du Moyen-Orient, riche en pétrole et cruciale pour le commerce international. 75 ans donc qu'elles entérinent la politique de colonisation et d'apartheid de l'État israélien. 75 ans qu'elles font des Palestiniens des réfugiés à vie au Liban, en Syrie, en Jordanie et des réfugiés à vie dans leur propre pays, à Gaza, en Cisjordanie et en Israël. Aujourd'hui, après 35 000 morts, au bas mot, après des familles entières décimées, 14 000 enfants tués en 6 mois, des hôpitaux, des écoles réduites en ruines, presque toutes les infrastructures démolies, la famine qui rôde, que font les Biden, Sunak, Macron et compagnie? Ils continuent de financer et d'armer Israël et de lui assurer un soutien sans faille. Et c'est précisément ce soutien sans faille qui donne à Netanyahou et à l'armée israélienne le sentiment d'impunité qui lui permet de commettre un massacre à Gaza et même de provoquer l'Iran, quitte à risquer le dérapage qui mettrait le feu à toute la région, menace qui plane en permanence. Alors oui, bien sûr, il faut dénoncer la politique de Netanyahou. Et il faut dénoncer celle de nos propres dirigeants. Les atrocités commises le 7 octobre par le Hamas ne peuvent pas justifier le bain de sang et les atrocités perpétrées à bien plus grande échelle par l'État d'Israël. Cette fuite en avant guerrière et l'accélération de la colonisation en Cisjordanie est une folie, y compris pour les Israéliens. L'armée israélienne n'est pas en train de détruire le Hamas. Elle est en train d'engendrer les prochaines générations de combattants. C'est une politique qui ne peut que se retourner contre les Israéliens eux-mêmes. La population et la jeunesse israélienne la payent déjà en étant transformée en geôliers et en bourreau des Palestiniens, en étant toujours plus enrôlés dans une guerre sans fin, au coût moral et économique de plus en plus lourd. Tout cela, il faut le dire haut et fort, le dénoncer haut et fort, sans accepter la censure et les menaces du gouvernement et de l'appareil d'État. Et j'en profite pour réitérer tout notre soutien à ceux qui sont aujourd'hui poursuivis pour apologie de terrorisme ou taxés d'antisémites parce qu'ils dénoncent la politique de l'État israélien. Je pense à Jean-Paul Delescot, secrétaire de l'Union départementale CGT du Nord, condamné à 1 an de prison avec sursis. Et je pense aussi à tous ceux qui sont sur la sellette, de Rima Hassan à Anas Kazib, en passant par Mathilde Panot de la France Insoumise ou encore Philippe Poutou. Ne nous laissons pas intimider. qui ont empêché, depuis le début, les deux peuples, les Juifs et les Arabes de Palestine, de vivre côte à côte. Ce sont les manœuvres de nos dirigeants. C'est leur politique impérialiste qui n'a cessé de dresser les peuples les uns contre les autres. Et ce sont ces dirigeants-là qui gouvernent le monde. Ce sont eux qui prétendent nommer le bien et le mal. Eux qui prétendent dire le droit international et désigner qui est terroriste et qui ne l'est pas. Et ce sont eux qui parleront de paix quand la paix des cimetières règnera à Gaza et qu'Israël aura recolonisé toute la Palestine. Non, les puissances impérialistes ne sont pas les colombes de la paix, de la démocratie et de la prospérité, ni à Gaza, ni en Ukraine. Les dirigeants comme Biden, Macron, Scholz ou Sunak ne sont pas moins dangereux que Poutine ou Xi Jinping. Oh, ils savent faire de beaux discours du haut des institutions internationales. Et ils savent toujours se faire passer pour pacifistes, y compris quand ils vont envahir et détruire un pays aussi grand que l'Irak. Parce qu'ils font toujours croire que les agresseurs, les despotes sanguinaires, ce sont les autres. Eh bien non, les principaux fauteurs de guerre, les principaux pyromanes qui ne cessent de jouer avec des allumettes sont chez nous, ce sont nos dirigeants. Et ne les laissons pas nous mener à une troisième guerre mondiale. Si nous avons une guerre à mener, c'est une guerre contre leur ordre impérialiste infâme, meurtrier et barbare. Si on a pu apprendre aux enfants des écoles le mensonge selon lequel l'Union européenne garantissait la paix sur le continent, c'est parce que depuis 80 ans, les principaux pays européens n'ont plus fait s'entretuer leur peuple, comme ce fut le cas lors des deux guerres mondiales. Mais rien que sur le sol européen. N'oublions pas que la guerre a fait rage avec l'explosion de la Yougoslavie et que loin d'être des forces de paix, la France et l'Allemagne ont encouragé leurs alliés respectifs dans leur nationalisme et leur séparatisme. Et les États européens, dont la France, en ont mené des guerres pendant tout ce temps-là. Depuis 1945, l'impérialisme français, pour ne parler que de lui, a mené des guerres coloniales à Madagascar, en Indochine, en Algérie, au Cameroun. Entre 1967 et 1970, pour contrer l'influence de la Grande-Bretagne et des États-Unis, l'armée française a encouragé les velléités de sécession du Biafra et attisé la guerre ethnique dans cette province du Nigeria. Cette guerre a engendré une famine, faisant 1 à 2 millions de morts. 25 ans plus tard, au Rwanda, toujours pour des raisons de rivalité avec les Britanniques et les Américains, l'État français a armé et soutenu le régime Hutu d'Habyarimana. Macron regrette aujourd'hui publiquement que la France n'ait pas empêché le génocide des Tutsis. Mais c'est pire que ça, elle en a été la complice active. Aujourd'hui, les dirigeants de l'Union européenne, Macron en tête, ne font même plus semblant d'être pacifistes. Ils n'ont plus que le mot « guerre » à la bouche. Il faut se mettre en ordre de bataille pour mener la guerre contre la Russie, sans quoi l'Union européenne peut mourir. Oh, les dirigeants de l'Union européenne sont loin d'avoir les moyens de leur ambition, puisque, comme le regrette Macron, il n'y a ni armée européenne, ni défense européenne, ni diplomatie européenne, étant donné que chaque État veut rester maître de sa politique étrangère. Toujours est-il que l'Union européenne apporte sa petite contribution à l'évolution guerrière. Elle a débloqué 500 millions d'euros pour favoriser la production d'armement. Elle participe au financement de l'envoi d'armes, donc, et comble du cynisme, ses fonds pour la guerre sont prélevés sur ce que l'Union européenne a nommé « Facilité européenne pour la paix ». Alors, non, l'Union européenne n'a jamais été et elle ne sera jamais porteuse de la paix. Et elle n'est même pas porteuse d'une véritable union. Ce que les dirigeants politiques de la bourgeoisie appellent la construction européenne n'a pas eu pour but de fonder de nouvelles relations entre les peuples, fondées donc sur la coopération et l'amitié. Elle a été l'œuvre des banquiers, des industriels, des marchands américains et européens obsédés par la recherche de profits et par leur concurrence. Les droits des travailleurs ou ceux des femmes n'ont jamais fait partie de leurs préoccupations. Pensez qu'en 80 ans de construction européenne, il n'y a même pas le début du commencement d'un SMIC européen et que le droit à l'avortement n'est même pas garanti à toutes les européennes et qu'il leur est même refusé à Malte et en Pologne. La seule et unique préoccupation des dirigeants qui ont voulu l'Union européenne a été dès le départ, et elle l'est restée, de construire un marché européen. Un marché pour tenter de dépasser le morcellement national, devenu depuis longtemps un frein pour leur économie. Par deux fois, au travers de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a tenté de résoudre ce problème du morcellement, sans y parvenir. Finalement, c'est à l'amiable et sous la pression des États-Unis que les États européens se sont entendus sur un certain nombre de règles pour construire ce marché européen. C'est-à-dire une arène dans laquelle Volkswagen, Mercedes, Renault et Stellantis continuent de se mener une guerre impitoyable, comme ils le font contre les constructeurs extra-européens que sont les Ford, Toyota, Hyundai. Et c'est la même chose dans tous les secteurs, pour les laboratoires pharmaceutiques comme pour l'agroalimentaire, pour les télécommunications comme dans le transport ferroviaire et aérien, les assurances, le tourisme, etc. L'Union européenne n'a pas mis fin à la guerre économique entre les bourgeoisies européennes. Elle ne l'a même pas atténuée. Elle l'a simplement codifiée, bien sûr, sur le dos des travailleurs. Alors oui, cette Union européenne n'a rien pour plaire aux classes populaires. C'est l'Europe du capital, pour la simple et bonne raison que les États nationaux qui la composent sont au service du capital. Alors, l'Union européenne fait partie intégrante de toute la bande de brigands que les travailleurs auront à renverser, en même temps qu'ils renverseront les États bourgeois et expropieront la grande bourgeoisie. L'idée de l'Europe unie et sans frontières, où l'on pourrait circuler librement de l'Atlantique à l'Oural, de la mer du Nord au Bosphore, et s'enrichir de la diversité des cultures, est une idée fantastique. Mais je le redis, l'Union européenne n'a rien à voir avec cela. Elle ressemble plutôt à un avorton d'union, chétif, mal conformé, inabouti, puisqu'elle englobe seulement 27 des 50 pays d'Europe, soit 450 millions d'habitants sur 750 millions d'Européens. Et puis c'est une union qui pérennise les inégalités et les rapports de domination entre les pays riches d'Europe de l'Ouest sur ceux plus pauvres de l'Europe de l'Est et du Sud, comme la Grèce. C'est une union qui, loin de faire reculer les idées nationalistes, les a partout renforcées. Il y a désormais des clones de Le Pen, Bardella ou de Zemmour un peu partout, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche, en Italie. Dans tous les pays membres de l'Union européenne, les idées souverainistes, protectionnistes et chauvines font un retour en force parce que l'Union européenne n'a pas du tout fait disparaître les États nationaux. Au contraire, la grande bourgeoisie continue de se cramponner partout à son État national et à son personnel politique. Exactement comme la noblesse en flin de règne s'agglutinait à la cour du roi pour en recevoir titres et gratifications, la grande bourgeoisie compte sur la protection de son État et de son personnel politique. Que serait Dassault sans les commandes de l'État français Et que serait la grande bourgeoisie française sans les milliards de subventions que l'État lui apporte et sans l'administration qu'elle met à son service? C'est une des nombreuses contradictions de la bourgeoisie. Elle a besoin de l'Union européenne pour que ses trusts atteignent la puissance de frappe de ceux des États-Unis ou de la Chine, mais elle ne peut pas se passer d'un État national fort qui lui soit dévoué. Voilà pourquoi l'Union européenne a avancé tout au long de ses 80 ans à pas de tortue. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, dans un contexte de tensions exacerbées et d'incertitudes, certains, comme la Grande-Bretagne, ont pu quitter le navire sans que cela change fondamentalement le sort ni des travailleurs britanniques, ni des travailleurs du reste de l'Europe. Et voilà pourquoi la politique de l'Union européenne s'apparente à deux pas en avant, trois pas en arrière. La formation des États nationaux a permis le développement de la bourgeoisie et du capitalisme. Aujourd'hui, leur perpétuation contribue à son pourrissement. Le morcellement de la planète, la persistance et même la multiplication des frontières et du nombre d'États font partie des aspects les plus réactionnaires du capitalisme. L'avenir, même pour les peuples opprimés, n'est pas à la création de nouveaux États, mais à l'unification à l'échelle de continents entiers. Mais même pour ça, même pour se débarrasser des frontières européennes anachroniques et dépassées depuis fort longtemps par la puissance des forces productives, eh bien il ne faut pas compter sur la bourgeoisie. La véritable union de l'Europe, de tout le continent, sera impulsée par une révolution des travailleurs ou elle ne sera pas. Les États-Unis d'Europe seront socialistes ou ils ne seront pas. Non seulement l'Union européenne n'a pas fait disparaître les frontières entre pays membres, mais sous la pression d'une extrême droite toujours plus forte, elle se barricade en construisant toujours plus de murs et de barbelés. Les dirigeants de l'Union européenne n'en sont pas encore à déporter les réfugiés vers le Rwanda et à supprimer le droit d'asile, comme l'a décidé cette semaine le Royaume-Uni, sous la direction de Rishi Sunak. Mais leur politique s'en rapproche. Meloni, la présidente d'extrême droite du Conseil italien, projette de sous-traiter les demandes d'asile en Albanie, méthode approuvée par la coalition de droite qui domine actuellement le Parlement européen. En France, le gouvernement qui chasse sur les terres du Rassemblement national mène une véritable guerre contre les réfugiés sans papier, qu'il traque comme des criminels. Cette année, il a voté une énième loi pour pourrir la vie des travailleurs immigrés, qu'ils soient avec ou sans papier, pour réduire leurs droits, pour rendre plus compliqué le regroupement familial. Oui, Macron, qui s'est fait élire en 2017 et 2022 sur la promesse de faire barrage à l'extrême droite, passe aujourd'hui les plats à Le Pen. Preuve, s'il en fallait encore, que l'extrême droite ne peut pas être combattue par les urnes. Elle ne le sera qu'au travers d'une remontée ouvrière où les travailleurs de toutes les origines et de toutes les couleurs de peau se battront ensemble. Les racistes et les xénophobes peuvent vomir leur poison sur les plateaux télé, mais ils ne peuvent pas supprimer cette réalité qui fait des immigrés, des travailleuses et des travailleurs, c'est-à-dire des sœurs et des frères de classe et de combat. Alors, organisons-nous ensemble, rassemblons-nous. Soyons le plus nombreux possible à dire que lorsque l'on prive certains travailleurs de leurs droits, les droits de tous reculent. Il faut donc les mêmes droits pour tous. Des papiers et un salaire correct pour tous. La régularisation donc de tous les sans-papiers, la liberté de circulation et d'installation pour tous. « Pour nous, communistes révolutionnaires, l'internationalisme est bien plus que l'expression d'un humanisme élémentaire. Il est une nécessité objective, car il n'y a pas d'issue pour les opprimés et les exploités de cette planète en dehors d'une politique internationaliste. Le système capitaliste et la grande bourgeoisie règnent à l'échelle du monde. C'est donc à cette échelle-là. Pardon. Règne à l'échelle du monde. Et c'est à cette échelle-là que les forces productives ont pu déployer toutes leurs possibilités. Dans le cadre du capitalisme, cela a été l'internationalisation de l'exploitation et des souffrances pour l'écrasante majorité des peuples qui n'ont pas profité du progrès qu'ils faisaient naître. Mais si nous pouvons affirmer que la société est capable de nourrir, soigner, éduquer et assurer une vie digne aux 8 milliards d'êtres humains qui peuplent cette planète, nous le devons à cette internationalisation. C'est donc à cette échelle-là que les travailleurs ont amené leur combat. Et c'est à l'échelle internationale qu'ils devront réorganiser toute l'économie pour fonder une société supérieure au capitalisme. Et il faut être obtus ou volontairement aveugle pour ne pas voir que les principaux défis auxquels l'humanité est confrontée, la crise climatique, mais aussi le sous-développement d'une grande partie de la planète, ne peuvent être résolus qu'à cette échelle-là. Dans ces domaines, comme à l'occasion des guerres, on mesure combien le morcellement, les frontières et les États nationaux sont réactionnaires. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend tant de l'extrême droite que de la gauche, de la France insoumise, du PCF, qu'il faut retrouver la souveraineté nationale, qu'il faut produire français. C'est un non-sens. Combien d'entreprises installées en France, de Toyota à Valenciennes, au chantier naval STX de Saint-Nazaire, en passant par ST Microelectronics à Grenoble, sont à capitaux étrangers, américains, japonais, italiens ou autres? Et combien d'usines, d'hôpitaux et même d'exploitations agricoles tourneraient sans les ouvriers ou les techniciens venus des quatre coins du monde, de Pologne, de Roumanie, du Pakistan, du Cambodge, du Maroc, de Guinée? Sans compter que les dites productions françaises partent pour la plupart sur le marché mondial, puisqu'en France, un salarié sur quatre travaille pour l'exportation. Alors qu'est-ce que c'est le Made in France? Des intérimaires étrangers qui fabriquent en France les flacons de parfum que Dior ou LVMH exportent en Chine ou dans les pays du Golfe. Il y a 180 ans, dans le manifeste communiste, Karl Marx et Friedrich Engels constataient déjà, je les cite, au grand désespoir des réactionnaires, la bourgeoisie a enlevé à l'industrie sa base nationale. Alors, camarades, laissons s'agiter ceux qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Le combat pour l'émancipation des travailleurs devra être traduit dans toutes les langues. Il devra se diffuser d'un pays à l'autre, comme le sont les marchandises, les capitaux et les idées de la bourgeoisie. Parce qu'une chose est sûre et certaine, l'émancipation et l'avenir des travailleurs ne peuvent se dessiner qu'à l'échelle internationale. À ses origines, le mouvement socialiste proclamait « les prolétaires n'ont pas de patrie ». Aujourd'hui, les héritiers lointains du mouvement ouvrier, dans les syndicats comme dans les partis de gauche, se veulent les champions de la souveraineté nationale, du protectionnisme et des relocalisations industrielles qu'ils mendient aux capitalistes. Exactement comme le font Bardella et le RN, les candidats de gauche, le PCF ou la France insoumise dénoncent les traités de libre-échange qui engendreraient une concurrence déloyale pour les entreprises françaises. Cela fait partie des nombreuses diversions qui contribuent à effacer la conscience de classe au profit du poison nationaliste. Pour inonder l'Afrique des produits français, la France n'a pas eu besoin de signer de traités de libre-échange avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc ou l'Algérie. Parce qu'il n'y a rien de libre dans cette société, et surtout pas l'échange, qui est toujours et partout la loi du plus fort. Le problème, c'est l'échange capitaliste tout court. Le fait que tout doit se vendre et s'acheter, y compris des produits aussi vitaux que l'alimentation, les médicaments ou encore l'énergie, c'est que tout doit être vendu au plus offrant pour faire le maximum de profit. C'est que tout ce qui est échangé fait l'objet de la spéculation. Oui, il n'y a rien de rationnel à faire venir de l'autre bout du monde des produits que l'on pourrait fabriquer localement. Mais faire croire que l'on pourrait remplacer le système productif, y compris l'agriculture actuelle, par une production exclusivement locale, est une escroquerie. Et qu'est-ce que cela peut signifier pour Haïti, pour le Bangladesh, pour le Mali, l'Islande, qu'ils doivent se débrouiller avec leur production locale? Et c'est encore plus stupide pour les grands pays impérialistes, dépendant des ressources rares pour leur économie hautement sophistiquée, qui ne peut plus se passer de satellites, de puces électroniques. La circulation des marchandises, des technologies, des capitaux et des hommes, c'est la circulation sanguine de l'économie. Si elle s'arrête, il n'y a plus de vie économique. Alors, parler de produits français, vanter le protectionnisme et faire croire que tout pourrait être produit local sont des balivernes qui empoisonne la conscience des exploités. Là où l'humanité doit franchir un pas, c'est précisément dans la conscience qu'elle est liée dans un sort commun. On ne s'en sortira pas chacun dans son pays. Si le prolétariat montrait le niveau de combativité et de conscience nécessaire pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie, il faudrait qu'il inscrive à son programme la suppression des frontières, leur transformation en simple limite administrative, tant que les peuples éprouveront le besoin de se démarquer. Des frontières administratives que chacun pourrait franchir librement, comme on passe aujourd'hui du département de la Loire-Atlantique à celui du Morbihan, en souriant aux perspectives, aux persistances du régionalisme breton. Et il faudrait que les travailleurs s'attellent à la tâche de l'avenir, celle d'unifier l'économie européenne pour ensuite unifier l'économie mondiale, pour l'organiser, c'est-à-dire pour recenser les besoins de tous et planifier la production en conséquence à l'échelle internationale. Le prolétariat au pouvoir repartira de la société actuelle, de la mondialisation d'aujourd'hui, non pas pour la détruire, mais pour la mettre au service de l'humanité tout entière. Rien que le contrôle des grandes institutions financières et des principales multinationales de l'énergie, des transports, de la métallurgie, de la chimie, de la chaîne agroalimentaire et des communications permettrait d'en finir avec la concurrence mortifère et permettrait de coordonner les efforts productifs pour en finir avec le gâchis de la sous-production et avec celui de la surproduction. Oui, une économie rationnelle et planifiée à l'échelle du monde qui répond aux besoins de tous sans détruire la planète est possible. Oui, un avenir de paix et de coopération est possible. Oui, un monde uni et sans frontières est possible. Tout dépendra de la capacité des travailleurs à monter à l'assaut du pouvoir et à prendre en main les rênes de la société. Finalement, ce qui est le plus riche d'espoir dans l'idée d'unifier l'Europe et plus généralement dans la mondialisation de l'économie capitaliste, c'est qu'elle relie les travailleurs du monde entier. C'est qu'elles font nous rencontrer, nous connaître. Elles nous permettent de travailler ensemble. Pour le moment, les milliards de prolétaires dont nous faisons partie sont unis sous le diktat du grand patronat et des financiers. Et nous tremblons tous quand le cours du pétrole, du blé ou du riz augmente. Nous subissons tous le même chantage à la compétitivité. Nous sommes unis dans la même inquiétude devant le licenciement, le chômage, la misère, le réchauffement climatique et la guerre. Eh bien, nous finirons par nous rendre compte que d'une extrémité de l'Europe à l'autre, et souvent d'un continent à l'autre, on retrouve parmi nos exploiteurs les mêmes groupes industriels et financiers. Nous finirons par nous reconnaître dans la lutte de classe menée par les travailleurs des autres pays, et nous finirons par nous rejoindre dans la même vague révolutionnaire, comme cela s'est produit dans la foulée de la révolution russe de 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Alors bien sûr, nous n'y sommes pas encore. Et malgré le fait que bien des gens et des jeunes s'engagent dans toutes sortes de combats légitimes, la société recule. Et elle reculera tant que nous ne parviendrons pas à bouleverser l'ordre social en profondeur. Cela donne à beaucoup le sentiment d'être complètement dépassé et impuissant. Et même quand on est révolté, il est parfois difficile de savoir par quoi commencer et par quel bout le prendre. Eh bien, nous devons le prendre par le bout que nous tenons déjà entre les mains, c'est-à-dire en utilisant notre position de travailleuses et de travailleurs confrontés directement ou indirectement à la classe capitaliste. Nous devons partir du fait que nos intérêts s'opposent au quotidien à ces intérêts de rapaces et nous poussent à la lutte collective contre le pouvoir de la classe sociale qui est devenu l'obstacle majeur au développement harmonieux de la société. Nous devons partir du fait que nous sommes à la base de tout, à la base de la production des richesses, des profits, des capitaux, et que la vie et la prospérité de la grande bourgeoisie dépendent de nous. C'est cela qui nous rend capables de lui demander des comptes, c'est cela qui nous rend capables de la renverser et de la remplacer. Prenons conscience qu'en tant que travailleurs, nous avons la solution entre les mains puisque nous faisons tourner la société. Et puisque nous savons faire tourner cette société, eh bien nous sommes capables de la diriger. Et il faut un parti qui incarne cette perspective. Pas un parti de politiciens qui demande aux travailleurs de voter en expliquant qu'ils s'occuperont de tout une fois élus. Il faut un parti de travailleuses et de travailleurs présents dans les entreprises, dans les quartiers populaires, en permanence, et capables de rassembler dans les périodes de lutte comme dans les périodes de recul. Il faut un parti de travailleurs conscients d'avoir à changer les choses par eux-mêmes, parce que c'est toujours d'en bas, du petit peuple, des travailleurs, des exploités que sont nés les véritables changements. Les opprimés et les exploités peuvent endurer bien des souffrances et ils peuvent vivre au milieu de bien des horreurs. Parfois, pendant des mois, pendant des années, même des décennies. Mais il finit toujours par y avoir des révoltes et des insurrections. Alors oui, il faut un parti qui ait cette conviction révolutionnaire et qui regroupe des femmes et des hommes conscients que leur classe aura tôt ou tard le pouvoir d'agir pour que la société prennent le chemin du communisme. Et ce parti, il ne doit pas se concevoir comme un parti national, mais comme un parti international des travailleurs, avec des ramifications dans tous les pays, comme le furent les premiers socialistes, les premiers partis donc socialistes et communistes, quand ils étaient encore révolutionnaires. Ce qu'il faut viser, c'est la construction d'un parti mondial de la révolution, c'est-à-dire une internationale. Et regardons-nous, nous avons tous, de par notre histoire, de par notre vie, des liens familiaux avec les travailleurs de très nombreux pays. Quand nous ne sommes pas nous-mêmes issus de l'immigration, nous vivons et travaillons avec des femmes et des hommes venus des quatre coins du monde. Ce sont ces liens-là qui nous aideront à construire l'international dont nous avons besoin. Alors oui, retroussons-nous les manches, usons de notre force de conviction pour rallier aux perspectives communistes révolutionnaires des travailleurs de toutes les origines, de toutes les nationalités et de toutes les couleurs de peau. Jean-Pierre l'a dit, les élections au Parlement européen ne sont qu'une péripétie. Mais dans cette période où les démagogues ont micro ouvert et cherchent à diviser le monde du travail, elles nous offrent la possibilité de montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui ne mangent pas de ce pain-là et qui restent fidèles à l'appel de Karl Marx et de la Première Internationale. Travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Ces élections nous donnent aussi la possibilité de montrer qu'il existe des femmes et des hommes qui ne se découragent pas, qui se réclament des intérêts des travailleurs et de la perspective communiste révolutionnaire. Et elles nous permettent d'appeler le plus de travailleurs possible à se regrouper derrière ce drapeau et dans un parti digne de ce nom. Alors bien sûr, notre campagne ne sera pas relayée par les grands médias et elle va dépendre intégralement de notre mobilisation militante. Eh bien, allons-y. Notre média, c'est notre force de conviction, c'est notre militantisme. Discutons le plus possible et demandons aux travailleurs qui nous entourent de voter pour la liste Lutte ouvrière. Contrairement aux autres partis, nous ne participons pas à une compétition de petits chevaux où les uns et les autres veulent passer devant un tel ou un tel pour la suite de leur carrière politicienne. Et dans le climat réactionnaire actuel, nous savons combien nous sommes à contre-courant. L'enjeu pour nous est d'entraîner ceux qui nous entourent à nous rejoindre dans le geste concret de voter pour nous. Leur vote sera un premier pas vers le parti que nous voulons construire. Un premier pas important et sans ambiguïté. Nous sommes certes une petite organisation, mais nous avons su, par notre fidélité et notre constance politique, nous distinguer de tous les autres. Nous incarnons, bien sûr, le camp des travailleurs. Et Arlette Laguiller, qui est parmi nous, ici ce soir, et qui est aussi sur la liste, y a ô combien contribué. Alors oui, nous nous distinguons parce que nous incarnons ce camp, le camp des travailleurs. Et depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, nous incarnons aussi l'opposition la plus irréductible à la guerre impérialiste. Car sur ce terrain, nous sommes aussi les seuls à dénoncer les responsabilités des dirigeants occidentaux et leur propagande autour de la défense de la patrie. Ces élections, dans une période marquée par les idées nationalistes et le repli sur soi, contribueront à nous identifier encore davantage comme communistes, révolutionnaires et internationalistes. Personne ne choisira de voter Lutte ouvrière par hasard ou sur un coup de tête, parce que l'affiche est super. Voter Lutte ouvrière demandera de la conscience, une capacité à résister au vent dominant réactionnaire et à tenir bon sur les intérêts et les perspectives révolutionnaires que porte le camp des travailleurs. Eh bien, faisons en sorte que ce geste soit fait par le maximum de travailleuses et de travailleurs. Nos idées ne pourront changer le cours de l'histoire de l'humanité que lorsque les masses s'en empareront. Cela ne sera possible que dans une période de remontée des luttes ouvrières, et si ces idées restent vivantes dans les consciences des exploités. Cette campagne nous permet précisément de les faire circuler et de les propager bien au-delà de nos rangs. Alors, menons cette campagne avec l'enthousiasme et la détermination que nous apporte notre optimisme révolutionnaire. Chacun des votes qui se portera sur notre liste sera un pas vers la reconnaissance du programme de la révolution prolétarienne et un gage précieux pour l'avenir.